Je m'appelle Hugo Duminil-Copin, je suis professeur en mathématiques à l'Université de Genève et à l'Institut des hautes études scientifiques à Paris.
Quel a été votre parcours d'étudiant ?
Alors, moi j'ai été quelqu'un qui est un peu un touche-à-tout quand j'étais jeune. Mes parents n'étaient pas scientifiques, donc je faisais beaucoup de sport, de musique. J'étais intéressé non par l'astronomie, mais j'ai fini par me diriger vers les mathématiques. J'ai fait l'école normale supérieure à Paris et puis après master et doctorat en mathématiques.
Quel a été votre parcours professionnel?
Donc en fait, après avoir fait mon doctorat en mathématiques, j'ai eu cette chance en fait que le département, donc j'étais à Genève pour mon doctorat, le département de mathématiques m'a immédiatement proposé un poste en fait de professeur. Donc j'ai eu la chance de pouvoir sauter en quelque sorte quelques étapes et de passer directement d'étudiant en doctorat à professeur de mathématiques. Quelques années plus tard, en fait, j'ai aussi décidé de prendre ce poste en parallèle, donc je jongle un peu entre les deux lieux, ce poste à Paris pour avoir peut-être une approche un peu différente de mon métier et pouvoir tirer le meilleur de chacune des deux positions.
Quels sont vos domaines de recherche?
Alors, je travaille sur ce qu'on appelle les transitions de phase. Donc, on n'a pas forcément l'impression que ce sont des mathématiques. Les transitions de phase, c'est les changements brusques de comportement dans un système complexe. Vous connaissez par exemple quand on prend de l'eau et qu'on la refroidit, ça devient de la glace. Quand on prend de l'eau et qu'on la réchauffe au-dessus de 100 degrés, ça devient de la vapeur. Ça, ce sont des changements d'état. C'est un exemple typique de transition de phase. Il y a un changement brusque de comportement quand on varie la température. Moi, je m'intéresse à pas tellement à ce changement de phase-là, mais je m'intéresse beaucoup au changement de comportement des aimants. Quand on les chauffe, en fait, ils perdent leur aimantation, et j'essaie de comprendre mathématiquement pourquoi ça a lieu. Et puis un autre dada que j'ai, c'est les problèmes de porosité de matériaux. Quand est-ce que l'eau ou le gaz peut passer à travers un matériau poreux tel que de la pierre ponce ou par exemple du charbon?
Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant ou professionnel qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière d'excellence en mathématiques?
Clairement, il y a eu plusieurs rencontres. Et ce qui est assez marrant, pour les maths par exemple, j'ai clairement deux choses qui me viennent en tête. Une rencontre avec en fait un échec. Quand je suis arrivé en première, en fait, ça n'a pas très bien marché au début en mathématiques. Je me suis rendu compte que c'était passé à un niveau différent et je n'étais pas capable de suivre. Donc j'ai dû me mettre à travailler. Ça a été un choc un peu brutal. Je travaillais avant, mais là, il a fallu passer à la vitesse supérieure. Et ça a créé finalement, j'ai pris avec cette rencontre un peu brusque, brutal, j'ai pris conscience que, en fait, quand je me mettais à travailler en mathématiques, j'aimais ça. Je prenais du plaisir à travailler. Donc ça a été un peu ce qui m'a dirigé vers les mathématiques. Mais à ce stade, peut-être que, voilà, j'ai compris que j'avais des compétences, que j'appréciais ça, mais il me manquait peut-être encore un peu quelque chose. Et c'est beaucoup plus tard, c'est en deuxième année de classe préparatoire, que j'ai rencontré un enseignant qui m'a vraiment donné une vision des mathématiques qui, de mon point de vue, était assez différente de ce que j'avais pu vivre avant, qui était quelque chose de très jubilatoire. C'était vraiment un jeu pour lui. Il y avait un plaisir esthétique et jubilatoire à démontrer des choses. C'était quelqu'un qui était très émotionnel quand il vous parlait d'une preuve, etc. Et ça m'a vraiment parlé. D'un certain point de vue, j'ai compris que c'était quelque chose aussi de subjectif, la pratique des sciences. Et après ça, j'étais absolument persuadé que je voulais faire des maths ma vie.
Alors, que représente l'IHES?
Alors, l'Institut des hautes études scientifiques, l'IHES, c'est un peu un ovni dans le monde universitaire français. C'est pas du tout public, en fait. Ça a été créé comme une fondation. C'est financé en partie par l'État, mais aussi par des fonds privés. Donc, ça a une liberté dans sa façon d'agir et d'organiser le quotidien des chercheurs et des chercheuses, qui est différent. Et cette particularité, elle se retrouve en fait dans le fait que l'IHES a décidé d'essayer d'optimiser la productivité, la créativité de ses membres. Donc c'est assez petit en fait, il y a peu de professeurs permanents. Aujourd'hui on est 5 ou 6 maintenant, on va être 6 en avril. Et en fait, du coup, tout est organisé pour échanger ensemble avec un grand programme de visiteurs qui viennent du monde entier. Ça, on sait pas, mais quand on fait, on sait pas forcément, mais quand on fait de la science, en fait, c'est un métier où on voyage énormément, où on rencontre énormément de gens de différentes cultures qui font de la science à l'autre bout du globe. Et donc l'IHES en particulier, bah, c'est un endroit où beaucoup de mathématiciens, mathématiciennes, physiciens, physiciennes se réunissent. Et pour moi, par exemple, c'est quelque chose, cet échange constant d'idées et de résultats, c'est quelque chose qui est très riche. Et donc l'IHES a su optimiser comme ça, je pense, le travail des chercheurs. Ce qui est intéressant parce que ça vient compléter un peu aussi le tissu universitaire où là ben, un chercheur il est aussi contraint et c'est bien hein, mais par l'enseignement etc. Moi quand je suis allé, quand je fais la partie de mon travail à l'université de Genève par exemple j'enseigne j'ai des tâches administratives etc. Donc ça vient compléter, l'IHES vient compléter un petit peu ça avec un peu plus de liberté et du coup ben, aussi une créativité décuplée.
Alors les objets mathématiques sur lesquels vous travaillez ont-ils des applications, des interactions, des connexions avec les autres domaines comme la physique théorique, l'astrophysique, la cosmologie et la physique quantique?
Oui, alors c'est une vaste question, effectivement, la question des applications d'un domaine de recherche. Tout dépend un petit peu ce qu'on appelle par là, application. Là, ce que vous avez mentionné, je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, mes recherches ont des interactions très fortes avec la physique théorique, avec la physique quantique pour certains. En fait, en physique quantique, on utilise par exemple ce qu'on appelle le concept de champ. Et c'est quelque chose qui mathématiquement est très difficile à construire, à définir. Et donc les mathématiciens cherchent depuis des années à essayer de donner un sens rigoureux, si vous voulez, à ces objets presque du quotidien du physicien. Et certaines de mes recherches sont reliées effectivement à ces tentatives d'essayer de d'offrir un support à la recherche du physicien en lui disant ces choses-là sont bien définies, ces choses-là peuvent être utilisées de telle ou telle sorte, etc. Dans mon cas, je ne fais pas trop d'astrophysique, même si, bien sûr, la physique statistique est impliquée à différentes échelles dans l'étude du cosmos, en particulier, par exemple, dès qu'on a des systèmes complexes hein, qui contiennent beaucoup de particules, par exemple une galaxie composée de milliards d'étoiles, là, il y a des besoins parfois d'utiliser la théorie des probabilités, la théorie des plasmas, etc., pour étudier ces choses-là. Et là, ça se rapproche de la physique statistique que moi j'étudie. Mais je n'ai pas de lien direct, on va dire. Je suis un tout petit peu à la marge de ce type d'application-là.
Très bien. Vous avez reçu la médaille Fields en 2022, qui est la plus prestigieuse des récompenses en mathématiques. Pouvez-vous nous recontextualiser cette récompense?
Oui, donc la médaille Fields effectivement est considérée comme l'une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques. Donc c'est donné tous les 4 ans au plus 4 mathématiciens ou mathématiciennes. Donc là en 2022 c'était de nouveau une fois où on en donnait 4. 3 mathématiciens et une mathématicienne, il faut le noter, c'est la deuxième mathématicienne en 8 ans à recevoir cette récompense, donc on va vers le mieux, il y a une présence féminine accrue et méritée, donc c'est formidable. Donc cette médaille Fields, oui, elle vient récompenser le travail, mon travail personnel, mais également, on va dire, le travail de la communauté autour de moi, parce que c'est toujours un travail collectif en sciences. Et ça a été, oui, c'est quelque chose qui a un petit peu chamboulé ma vie. Alors, ma vie professionnelle, pas tant que ça, parce que finalement, dans les cercles scientifiques, on se connaît déjà, on donne déjà de la valeur aux travaux des gens. Mais c'est vrai que pour le grand public, la médaille Fields permet finalement de mettre un coup de projecteur sur les mathématiques. Donc, je me suis retrouvé un peu du jour au lendemain à avoir des interviews, passer à la télé, etc., etc., avoir un rôle aussi un petit peu plus important de médiation scientifique, quelque chose qui me tient à cœur et qui est difficile d'ailleurs parce que on n'est pas formé pour ça. Je veux dire, quand je suis sélectionné pour la médaille Fields, c'est un prix qui est purement scientifique. Donc c'est sur la valeur de la recherche. On ne parle même pas d'enseignement et encore moins de médiation scientifique. Donc pour moi, ça a été un vrai challenge, un peu de responsabilité. Je me suis senti un petit peu, pas en panique, mais j'ai eu un petit moment de chaud, on va dire, à me dire, bon, bah, maintenant, il faut aussi assurer, être capable de transmettre le goût des sciences, hein, pas juste des mathématiques, mais des sciences en général à la population.
Très bien. Alors pour vous, qu'est-ce qu'un mathématicien ou une mathématicienne idéale?
Alors, il n'y a pas de mathématicien idéal. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose, je trouve, qui est intéressant, et c'est vrai dans toutes les sciences. Il n'y a pas de bonne façon de faire des mathématiques. Et ça, il faut le rappeler aussi aux jeunes, par exemple ceux qui écouteront cette interview. Les mathématiques, comme toutes les sciences, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Il faut être créatif, il faut assimiler des connaissances, des concepts qui sont compliqués. Ils sont compliqués, faut pas l'oublier. On a peut-être tendance parfois à se dire, bon, il faut absolument savoir ça, 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 parce que l'école me le demande, mais il faut pas minimiser la difficulté d'assimilation de ces concepts. Et du coup, en fait, ça, chacun a sa façon de les assimiler. Et si on me regarde moi, ou si on demande à ma voisine de bureau, par exemple, comment elle voit les mathématiques, on aura deux réponses totalement différentes. Donc il n'y a pas d'idéal du mathématicien ou de la mathématicienne. Il faut au contraire juste, le mathématicien ou la mathématicienne, c'est quelqu'un qui apprend peu à peu les choses, et s'il y a peut-être un facteur commun qui est peut-être nécessaire pour devenir mathématicien ou mathématicienne, c'est d'avoir de la curiosité. Et ça, c'est nécessaire. Il faut être curieux, d'essayer de pousser un peu plus loin, de comprendre un peu mieux, de reformuler, etc., de s'approprier les concepts mathématiques, pas forcément des choses abstraites, hein, mais c'est vrai que le langage mathématique, c'est tout un monde à soi, en tant que tel. Donc d'apprendre ces choses-là, d'avoir la curiosité de savoir comment ça s'applique dans les autres sciences, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qui peut être utile, etc., etc. Donc la curiosité, c'est peut-être la seule chose que j'attribuerais comme étant un dénominateur commun à tous les mathématiciens et mathématiciennes, et aux scientifiques en général.
Très bien. Alors, parmi les nombreux mathématiciens et mathématiciennes, pouvez-vous nous citer trois mathématiciens ou mathématiciennes modèles ?
Ah, des modèles. Alors ça, c'est vrai que on fonctionne assez souvent, c'est plus facile de se projeter quand on a des images de mathématiciens ou mathématiciennes ou scientifiques modèles. Pour moi, c'est une question qui est très difficile parce que je ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire que je fonctionne énormément à l'affect. Et du coup, les mathématiciens et mathématiciennes que j'admire le plus sont des gens que je connais, en fait. C'est pas des gens qui ont vécu il y a 300 ans, il y a 2 millénaires. C'est des gens que je connais, et c'est du coup des gens que personne d'autre ne connaît, parce que finalement, c'est plus des collègues qu'autre chose. Donc, pour moi, c'est une question qui est très compliquée. Il y en a beaucoup. Moi, en tout cas, ce que je trouve, les gens que j'admire le plus dans mon domaine, sont des gens qui sont en général généreux avec leurs idées, qui les partagent énormément. Et ça, c'est quelque chose qui est un dénominateur commun à tous ces modèles que j'ai. Mais si je vous donnais les noms, ça ne vous parlerait pas, en fait. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça, on a aussi tendance en science à se focaliser parfois dans la communication sur les grands héros et les grandes héroïnes des sciences qui sont extrêmement importantes. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais on en oublie presque un peu toutes les fourmis, le reste de la communauté scientifique qui participe en fait de façon extrêmement importante dans le développement de la science. Je veux dire, Einstein par exemple, bien sûr on peut dire Einstein c'est mon modèle, c'est quelqu'un qui est singulier dans l'histoire de l'humanité, et c'est vrai, ou Marie Curie par exemple, pour prendre quelqu'un à la même époque, ce sont des personnes qui sont complètement extraordinaires et différentes. Mais leurs travaux aussi se sont basés sur une immensité de savoir partagé pendant des dizaines et des dizaines d'années, des siècles, etc. Et donc, d'un certain point de vue, le fait de ne pas donner de nom précis, je trouve, rend un peu hommage à ces scientifiques anonymes qui seront peut-être pas, dont on ne se souviendra pas dans l'histoire, mais qui ont participé aussi au développement commun de la science.
Alors, quels sont vos challenges en mathématiques pour les prochaines années?
Alors ça, c'est quelque chose facile. C'est facile de répondre dans le sens qu'il faut voir qu'en mathématiques, comme dans toutes les disciplines scientifiques, quand on répond à une question, essentiellement, on ouvre une porte vers une pièce où il y a de nouveau quatre ou cinq portes à essayer d'ouvrir. Donc, en fait, ça s'arrête jamais. Donc moi, j'ai mes recherches qui avancent. J'essaye de comprendre en particulier ce qu'on appelle la physique statistique en dimension 3. Dans notre monde réel, parce que c'est quelque chose de très difficile en fait. On comprend beaucoup mieux la physique statistique en dimension 1 et 2 et en grande dimension, étonnamment. C'est quelque chose qui souvent surprend, mais bon, la dimension la plus intéressante, la dimension 3, c'est la plus dure. C'est comme si quelqu'un avait voulu jouer un petit peu avec nous et nous rendre la vie difficile mais intéressante. Donc, moi, typiquement, il y a certaines choses que je commence à comprendre dans d'autres dimensions, que j'aimerais comprendre en dimension 3. Il y a des choses que je comprends en dimension 3, mais qui ne sont pas encore suffisamment bien développées. Donc j'ai envie de pousser plus loin. Et alors là, j'ai du travail pour plusieurs vies.
Très bien. On a remarqué dans l'histoire des sciences, l'histoire, la philosophie des sciences, que chaque siècle, il y a toujours eu une découverte bouleversante. On peut citer au XXe siècle la théorie de la relativité qui a bouleversé toute la communauté scientifique et les astronomes en particulier, les grands physiciens théoriciens, lors de sa découverte. Est-ce qu'on peut dire qu'il en est de même en mathématiques?
Oui, je pense qu'en mathématiques, il y a des découvertes bouleversantes à intervalles réguliers. C'est très difficile d'isoler quelles sont celles qui sont les plus importantes chaque siècle, mais si on prend Newton et Leibniz pour le calcul infinitésimal, on peut prendre au 19e siècle, donc un peu plus tard, on peut parler peut-être des géométries non riemanniennes, non euclidiennes, excusez-moi, donc la géométrie riemannienne. Et toutes les implications que ces découvertes ont pu avoir pour la suite, justement en particulier en physique et pour la relativité générale. On peut parler au XXe siècle, bien sûr, les choses s'accélèrent un peu, hein, parce qu'il y a une espèce de faut voir que la quantité de communication aujourd'hui dans le monde est incroyable par rapport à ce qu'on a pu voir avant. Et du coup, ça accélère forcément le processus. Mais je pense qu'une chose qu'on peut octroyé au XXe siècle, c'est la découverte de l'informatique, essentiellement le développement de l'informatique. Donc, qui est basé au départ sur des considérations de mathématiques, en fait, qui après a branché en une discipline à part entière. Et puis, qui sait pour le XXIe ce que seront les grandes découvertes du XXIe siècle. Mais effectivement, voilà, il y a ces moments singuliers dans l'histoire et correspondent aussi en général à des changements brutaux, technologiques, sociétaux, etc. Il y a tout un progrès qui s'accompagne de ces découvertes scientifiques. Et quand on me demande en général pourquoi la recherche fondamentale est importante, on a toujours tendance à essayer de justifier en disant, mais vous verrez, dans 30, 40 ans, les choses commenceront à avoir des applications. Mais il y a une réponse plus simple qui est de regarder le passé, en fait. Parce que le passé, on se rend compte que tous les sauts technologiques, les sauts sociétaux, ont en fait coïncidé avec des découvertes scientifiques, pas que en mathématiques, hein, dans toutes les sciences, des découvertes scientifiques fondamentales. Et quand on regarde les gens qui les ont faites, en général, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils n'avaient aucune idée à ce moment de leur découverte que ça aurait autant d'implications sur la vie de tout le monde.
Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et les mathématiques en particulier?
Ce que je conseille pour les gens qui sont déjà intéressés, c'est d'essayer de trouver la façon d'avoir le plus de plaisir possible quand ils font de leur quand ils pratiquent leur discipline. Fondamentalement, je pense que le plaisir et cette fameuse curiosité dont on parlait tout à l'heure sont les points qui vont rendre quelqu'un créatif. Donc, il faut trouver le domaine, si on est intéressé par les mathématiques, pour prendre mon exemple, il faut arriver à essayer par vous-même de faire des exercices, de résoudre des problèmes pour trouver les domaines des mathématiques qui vous intéressent plus que d'autres. Et comme ça, vous dirigerez naturellement vers les sous-disciplines qui vous intéressent. Quand je parle des domaines, d'ailleurs, ça peut aussi être la façon de pratiquer les mathématiques, parce que devenir chercheur, ce n'est pas la même chose que devenir ingénieur. Ce n'est pas utiliser les mathématiques de la même façon. Et d'un certain point de vue, d'arriver à identifier si vous préférez plutôt justement avoir cette relation au réel que vos idées mathématiques et votre énergie mise dans les mathématiques, on va dire, découle qu'une certaine applicabilité découle de cette énergie, ou si au contraire vous préférez avoir une liberté un peu totale sans lien réel, sans rien direct au réel, excusez-moi, dans ce cas-là peut-être que la recherche est mieux. Est-ce que vous aimez transmettre? Parce que là, ce sera peut-être l'enseignement qui vous conviendra le mieux, etc. Donc ça, pour identifier ces choses-là, bah, faut essayer en quelque sorte. Faut pas non plus suivre complètement passivement le cursus qui, en France, peut un peu vous amener dans une direction sans que vous vous posiez vraiment la question de est-ce que c'est ce que je veux faire ou pas. Donc soyez proactif, essayez. Est-ce que vous aimez transmettre? Est-ce que vous aimez appliquer? Est-ce que vous aimez juste vous perdre moi j'aimais bien me perdre dans des problèmes pendant des jours et des jours, des semaines, des mois parfois. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait j'aimais la recherche et que c'était plus appliqué à moi que, par exemple, devenir ingénieur. Mais pour ça, il a fallu tester.
Très bien. Alors, pour finir, les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi?
Alors, je pense que les organismes qui promeuvent de façon générale la science, que ce soit les aspects techniques, les aspects théoriques, les aspects de médiation, sont absolument fondamentaux aujourd'hui parce que la société est tellement complexe qu'il y a besoin d'acteurs divers. On ne peut pas juste avoir un seul acteur qui va être capable de tout couvrir. Et donc, je trouve que justement, les associations un peu indépendantes qui vont offrir un regard différent sur un problème, sur un domaine, sur un métier, sur un enseignement, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et qu'il faut valoriser.
Merci.